Salut Ben, comment ça va? Qu'est-ce que t'écoutes?
Salut Steph. Moi ça va bien. Je viens de découvrir un morceau. Ah mais j'ai jamais entendu une ligne de basse pareille.
Ah ouais. Ouh là 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 là.
Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment?
Bah tiens, écoute ça. Il y a une section cuivre.
Ah là, c'est morceau d'anthologie, direct. Je crois qu'on arrive.
Oui, on dirait que c'est ici. Bonjour.
Bonjour Franck.
Bonjour Franck.
Bonjour les amis.
Merci de nous accueillir au studio Prado.
Et c'est Qu'est-ce t'écoute sur Radio Campus Paris. Et nous sommes avec Franck Chatonnat, cofondateur de Cotonet, pour 28 minutes pour parler de ses coups de cœur musicaux. Je rappelle que Cotonet, ce sont 8 musiciens, dont une section cuivre complète. Et ça, ça fait toujours plaisir. Quant aux inspirations du groupe, eh bien, elles viennent du groove des années 70, venu des USA bien sûr, avec Herbie Hancock ou encore Patrice Rushen, et aussi du Brésil avec Banda Black Rio ou encore Azimuth. Alors en 2024, Cotonet vient tout juste de sortir son deuxième album intitulé Victoire de la musique, qui est disponible en vinyle et en écoute sur toutes les bonnes plateformes. Et puis Franck Chatonnat, tu es aussi compositeur arrangeur de section cuivre notamment, en plus d'être joueur de saxophone accompli et professeur de musique à tes heures. En tout cas, un palmarès déjà bien rempli, avec des collaborations avec Aldoran de Trio Mobile, Il était une fois la révolution, Léon Ware, Tikenja, Facoli, et dis donc, les rêves se réalisent.
C'est assez folle cette histoire. Parce qu'au départ, le rêve, c'était d'aller jouer au Brésil.
Je vais vous raconter l'idée de créer ce groupe. J'étais à Rio, c'était en 2003. Ça commence à dater. En gros, un matin, je me réveille. Ça fait déjà un petit moment que je suis à Rio, il y a une ambiance qui est assez incroyable dans cette ville. Et notamment, en jazz funk, j'ai vraiment vu des choses. J'ai découvert Banda Black Rio.
Et j'ai cru. Groupe phare des années 70. Rio est révélateur d'un mouvement aussi,
voilà,
de musique, bien sûr.
Et donc j'ai découvert un peu ça sur place, en allant un peu dans les clubs et tout. Et évidemment, j'ai adoré. Et j'ai voulu, je me suis dit, quand je rentre à Paris, faut qu'on arrive à faire ça avec les copains, quoi. Donc un matin, en me levant, en prenant donc une boîte de Cotonet, donc qui est une marque de coton-tige au Brésil, et je dis en rentrant, j'ai monté un groupe de jazz funk brésilien qui s'appellera Cotonet, voilà. Et quand je suis rentré, j'en ai parlé immédiatement à mon ami Florian Pellissier, et on a monté ce groupe-là tous les deux ensemble. Ça s'est fait assez vite finalement. Et puis, après l'histoire, maintenant c'est un vieux groupe, l'histoire est longue. Mais donc, dans l'anecdote quand même qui est assez rigolote, finalement Cotonet est allé au Brésil en 2016, je crois, ou 17, pour faire une tournée avec Simone Mazer à Rio. On a commencé à Rio et on a joué au 16 Copacabana. Et en arrivant au 16 Copacabana, j'ai réalisé que, en fait, cette histoire de Cotonet était née au premier étage de l'immeuble qui se trouvait en face du 16 Copacabana. Donc il s'est passé 15-16 ans entre les deux. Et je trouve ça m'a rempli d'émotion. En plus, c'était un très beau concert. Et c'était incroyable, c'était fort de partir d'une idée un peu farfelue. Et puis de la réaliser avec les copains et de revenir 15 ans après et dire on l'a fait. Et ça continue effectivement avec un nouvel album là, qui vient de sortir.
Victoire de la musique.
Voilà. c'est notre victoire à nous parce que bon.
Franck, qu'est-ce que t'écoutes en ce moment?
Ouais, mais c'est marrant parce que là, je suis sur Cavallo Ferro des Quartetto NC. Ça fait des mois là que je suis dessus.
Ah oui.
Je m'en lasse pas, j'adore ce groupe de quatre chanteuses là. J'adore leur voix, j'adore les armos qu'elles font. Enfin voilà. Et là, c'est ce morceau-là, je me l'écoute vraiment, vraiment beaucoup.
Ah bah nous aussi, on veut l'écouter. Nous sommes en compagnie de Franck Chatonnat qui vient de nous faire écouter ce Quartet MC avec Cavallo Ferro. Ce sont les voix qui t'ont interpellé?
Absolument. Alors bon, faut le Quartetto MC, je pense qu'à peu près tout le monde a déjà entendu le Quartetto MC parce qu'elles sont à peu près sur tous les albums de musique brésilienne des années 60-70 et notamment Tom Jobim. Peut-être que certains ne le savent pas, mais je pense que tout le monde l'a à peu près entendu, ces quatre voix qui sont absolument magiques. Ce sont des sœurs, donc je pense que ça doit aussi jouer son rôle dans le mélange des timbres. Ouais, moi je suis absolument séduit par ces voix-là. C'est pur, c'est simple, c'est très sobre. Il y a très peu d'effets, il n'y a pas d'effet même, il n'y a pas du tout de vibrato, quoi que ce soit. C'est très pur, c'est tout à fait ce que j'aime. Dans les voix. Et c'est d'ailleurs ce que c'est pour moi un modèle, notamment dans ce que j'essaye d'écrire pour Aldorand.
Et oui, ça influence forcément.
Voilà.
Tu connais l'histoire du nom Quartet MC?
Ouais, c'est en fait parce que je crois qu'elle s'appelait autrement au départ. Je vais pas me rappeler vraiment. C'était les trucs de Bahia, là, les filles de Bahia ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus bien parce qu'elles viennent de l'État de Bahia.
The Girl from Bahia.
Voilà, The Girl from Bahia. Et en fait, c'est Vinicius de Moraes qui les a nommés Quartetto NC parce que les quatre sœurs ont des prénoms qui commencent par Si.
C-Y.
Alors, ouais. Si Belle, je ne vais pas connaître les quatre prénoms. Mais...
Siva, Sinara,
voilà.
Silène et Si Belle. Et,
Ça.
Effectivement, elles avaient commencé en tant que Girl from Bahia avec Dorival Caymmi sur deux disques qu'elles ont enregistrés aux États-Unis avant d'être renommé Quartet MC et de connaître une carrière extraordinaire pendant les années 60 et tout le début des 70, puisque cet album, qui s'intitule Quartet MC, est sortie en 1972. Elles sont bien accompagnées, hein. On retrouve Louis Essa à l'orchestration et beaucoup de noms connus parmi les musiciens, donc ça contribue aussi.
C'est un album vraiment magnifique, hein. Celui-là, là, celui de 72, pour moi, je pense que c'est mon préféré, quoi.
Alors on est parti dans le Brésil, c'est vrai que le Brésil c'est un pays qui t'est cher pour la musique. En tout cas tu es venu très tôt au Brésil, c'est une musique qui t'a attiré immédiatement.
Bizarrement non, c'est pas bizarre. En fait j'ai découvert la musique brésilienne au Brésil. Je suis allé, mon premier voyage, j'y suis allé un peu. Alors évidemment que je connaissais déjà certaines choses. Tom Jobim, j'ai toujours aimé Antonio Carlos Jobim, ça c'est vraiment... depuis vraiment l'adolescence. Mais en dehors de ça, voilà, je connaissais pas grand chose et j'ai découvert, je vous raconte l'histoire un peu. Mon premier voyage au Brésil. Ce qui m'a vraiment fait découvrir la musique brésilienne, c'est que je me suis retrouvé à Maceió, donc un peu au sud de Recife.
Région magnifique d'ailleurs.
Ouais, c'est sublime. Hein. C'est tout petit, hein, mais c'est que des plages de sable blanc. Et c'est très peu peuplé. Donc du coup, on est assez peinard. Et donc, je me suis retrouvé dans une auberge de jeunesse, une posada, tout seul, parce que j'étais hors saison, donc j'étais tout seul. Et en fait, la dame qui tenait cette posada collectionnait les vinyles de musique brésilienne. Donc je suis un peu tombé, je suis resté une semaine. Je suis resté une semaine dans un hamac, un hedge. Pour écouter, pour découvrir Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Marisa Monte. J'ai fait une cure de musique brésilienne en 5-6 jours, jour et nuit. Je ne m'arrêtais que pour aller me prendre une douche ou aller manger juste à côté. Mais c'était voilà. Et évidemment, la dame était ravie de pouvoir partager ça. Avec un petit français qui n'y connaissait rien. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la musique brésilienne. C'est d'une belle manière, quoi.
En effet, Antonio Carlos Jobim, il y a aussi Milton Nascimento qu'on peut citer.
Ah, évidemment.
Hein, évidemment. On ne peut pas l'oublier.
Non. Alors Milton, je connaissais évidemment Milton avec Wayne Shorter. Parce que ça, je pense que c'est international.
L'album enregistré en 16, il me semble, les deux ensemble. Ouais.
Je suis complètement dingue du premier album, Travessia, je crois. Voilà, cet album-là, moi, me bouleverse. Me bouleverse tellement que je l'écoute vraiment avec parcimonie, parce que déjà, je l'écoute en entier, parce que je ne peux pas m'arrêter au milieu. Et c'est son premier album, quoi. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Avec des arrangements incroyables. Bon, lui, il a une voix complètement divine. Et donc, moi, Milton, moi, je le mets vraiment c'est vraiment à part pour moi. C'est vraiment mon chanteur préféré, mon compositeur préféré. Je suis vraiment bouleversé à chaque fois que j'écoute Milton, quoi.
Et il faut dire qu'il a une voix très particulière.
Hein. Ouais, c'est transperçant, quoi.
Je ne sais plus qui disait que si Dieu devait avoir une voix, ce serait celle de Milton. Je ne saurais pas. Je retrouverai la personne qui a dit ça, mais ça a été dit.
Comme compliment,
c'est bien vu.
Ouais. Et puis, on parle aussi de certaines
infos. Dis-donc, tu es venu avec ton saxophone quand même.
Oui.
On aimerait bien t'écouter jouer un petit peu. Peut-être quelque chose que tu prépares. Qu'est-ce que tu.
Je pensais peut-être. J'ai ressorti. C'est écrit au crayon de papier. Ce serait marrant s'il y avait la date. Je ne la vois pas, non. Je pense que c'est un relevé que j'ai fait il y a 20 ans. Donc c'est Infantize de Wayne Shorter, je vous ai parlé de Milton Nascimento, mais pour moi c'est inséparable de Wayne Shorter. Je pense que c'est des sensibilités très proches et qui me touchent énormément. Donc moi je suis évidemment fan de Wayne Shorter, je l'admire, encore un qui est parti, mais je l'admire à l'infini, quoi. Je vais essayer de vous interpréter Infantize. Thank you.
Merci Franck pour ce joli morceau et bravo. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ce morceau que tu as choisi de partager avec nous ?
Ouais, donc c'est Infantile, c'est un des titres de l'album, du sublime album Speak No Evil de Wayne Shorter. Mmh. Où tous les titres sont absolument incroyables. Moi, c'est un album que j'ai écouté un nombre de fois incalculable. Je m'en lasse jamais. Enfin, je les trouve, ils sont tous en état de grâce sur cet album, c'est dingue. J'adore Freddy Hubbard aussi, c'est pareil, que j'essaye tant bien que mal de relever au saxophone soprano, mais c'est compliqué, mais c'est beau.
Un disque Speak No Evil qui est sorti en 1966, mais qui reste, la bonne musique n'a ni époque ni genre finalement.
Ah non, mais ça, cet album-là, de toute façon, ne vieillit pas, hein, c'est... Comme j'ai dit, c'est vraiment là, les musiciens sont tous habités. Enfin, c'est complètement incroyable l'énergie qu'il y a dans cet album. Le feeling, c'est vraiment de la magie.
On enchaîne avec un deuxième titre. Tu es venu avec deux titres dans ton sac à dos. Et le deuxième titre que tu as choisi, c'est un morceau du saxophoniste Pharoah Sanders, « You've got to have freedom ».
Got to Have Freedom, sorti en 1980 dans l'album Journey to the One, à écouter en tout cas. Pharoah Sanders, un peu à son habitude quand même, c'est des morceaux fleuves, hein. ça fait 10 minutes là quand même.
Ouais, on les sent pas passer. Hein.
Certes, on les sent pas passer.
En l'occurrence, ce morceau là, qui pour moi est quelque chose à atteindre. Quoi. C'est un peu. Il y a tout dans ce morceau, il y a tout ce que pour moi j'aimerais. C'est un peu mon but.
Ton Graal.
Mon Graal de musicien. C'est bon, bah voilà, c'est. Le but, c'est d'atteindre ça, quoi.
D'accord. Le climax final.
Exactement.
Parce qu'il y a des subtilités qui sont des objectifs, il y a des sons, des rythmiques.
Oui, c'est à la fois le son, l'énergie, l'expressivité, l'émotion. Moi, ça me crée énormément d'émotions, ce morceau. C'est de joie. C'est de la joie, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de vraiment puissant. Et en fait, on a l'habitude, nous autres saxophonistes, de citer toujours tous les autres. En fait, il y en a tellement, hein, des grands saxophones ténors en plus. On n'a pas fini de les citer, mais qui sont vraiment dans la virtuosité. C'est magnifique aussi, hein, Rollins, Coltrane, je vais pas tous les... Il y en a tellement, Joe Henderson, etc. Je les adore, c'est magnifique. Mais ça... Je l'écoute pas comme un saxophoniste, en fait. Je l'écoute un peu plus qu'un musicien. Et ça m'emmène, ça me donne de la force, ça me donne envie de continuer ce que je fais. Il est très fort pour moi, ce morceau.
Pour composer, par exemple, ça peut t'aider?
Alors, c'est une bonne question. En fait, j'arrive pas à me... Comment dire, j'arrive pas à faire le lien entre ce que moi je fais et ce morceau-là. C'est-à-dire qu'en fait, je m'identifie pas à ça. C'est-à-dire que c'est tellement parfait, c'est pas le mot qui convient, mais il atteint là quelque chose de tellement sublime que j'ai trop de... C'est presque de la timidité. Je ne peux pas me comparer ou prendre ça comme exemple. Ça m'impressionne trop, en fait.
Et ça t'inspire quand même?
Évidemment que ça m'inspire, mais moi je pense que Pharoa, il doit y en avoir un petit peu dans mon jeu, hein. C'est inévitablement, j'en ai tellement écouté, c'est voilà, avec mes capacités, hein, mais
oui. Et puis cette manière de jouer de Pharoa, c'est vraiment une expression presque crue et pure et brute de vie, de joie, comme tu dis, et de force.
C'est très intense, c'est unique aussi. Hein. Pharoa ne ressemble à aucun autre saxophoniste. Hein. C'est quand même ça aussi, c'est une force. Et c'est vrai que moi, je l'écoute pas comme un saxophoniste. Je l'écoute comme un musicien hors norme. Je le mets à part. Voilà, après c'est personnel, hein, ça m'habite depuis très longtemps, cette musique-là.
Bon, je crois que Benjamin, on arrive à la question finale.
Alors Franck Chatonnat, la question qui tue. Imagine que tu sois en face de ton idole en musique. Qui ce serait et qu'est-ce que tu aurais à lui dire ou quelles questions tu aurais à lui poser?
Alors ça va peut-être vous surprendre, mais... Je crois que ce serait Caetano Veloso.
Moi, plus rien ne me surprend, hein, à ce stade de l'interview.
Nous, on est open. Hein.
Caetano Veloso, pour moi, c'est l'élégance, le charme, le talent, l'humour. Enfin, je suis fan de Caetano Veloso depuis... je l'ai découvert dans cette petite posada de Maceo. Je me rappelle même du premier titre que j'ai entendu, c'était Sonios. Et j'étais absolument conquis. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est vraiment pour moi, ça marche à tous les coups. Quoi. Dès que j'entends sa voix, dès que je le vois, dès que... Voilà.
Ah, tu l'as rencontré?
Non, dès que je le vois, non, je ne l'ai jamais rencontré, hélas. Mais je veux dire, quand je le vois en vidéo, sur des...
D'accord.
Je l'ai vu en concert, bien sûr, je l'ai vu plusieurs fois en concert. C'est incroyable d'ailleurs, il est vraiment très fort aussi en live.
Ok, et la question?
Et alors donc, évidemment, Caetano, si j'avais l'occasion Moi déjà je serais très intimidé, même s'il m'a l'air très gentil et très humble. Non, je lui demanderais de me raconter l'histoire de la musique brésilienne. Tout simplement, il doit avoir 81 ans cette année-là, donc je pense qu'il a traversé toutes les époques sans faiblir. J'ai jamais rien entendu de raté de Caetano, malgré le nombre d'albums qu'il a fait. Je pense qu'il en parlerait très bien de la musique brésilienne.
Super, bah écoute, merci beaucoup Franck pour ce moment.
Merci à vous.
Avec toi.
Merci Franck.
Voilà, Qu'est-ce t'écoutes, c'est terminé. Mais vous pouvez réécouter cet épisode sur radiocampusparis.org. Nous, on se retrouve mardi 19 novembre sur le 93.9 FM. Salut.